l'Open de tennis d'Australie. Andy Murray a battu l'Espagnol David Ferrer. Il rencontrera donc dimanche Novak Djokovic.
Nous autres.
Après 37 ans de travail à Sanofi Montpellier,
Zoé Varier.
Thérèse est aujourd'hui en cessation anticipée d'activité.
Je ne pouvais pas rester.
CAA, un plan social qui ne dit pas son nom.
Moi, j'ai vécu ça comme un licenciement. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi je serais restée. J'avais pas envie de partir, mais je ne pouvais pas rester. On ne me voulait plus.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter, partenaire de Serge, le nouveau magazine de la chanson française. 116 pages d'histoires de chansons et de chanteurs. Au sommaire, Raphaël, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, rencontres passionnées autour d'Alain Bachung. Entretien exclusif avec Francis Cabrel. Juliette révèle ses dessous chics. François Morel s'entretient avec Georges Moustaki. Audrey Pulvar aime Souchon. Serge, à lire actuellement et à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Habari za watu wote wa Congo, amjambo. Sasa nimefurahi sana kuwasikia watu wote wa Katanga na wa Kivu wanaosema Kiswahili. Kwa sababu nilijifunza lugha hii zamani huko Kenya. Kwa hivyo, ninawasalimia watu wote wa Congo wanaosema Kiswahili na hata wengine. Mimi hapa ni Ludovic kwa kaskazini wa Alsace. C'était Ludovic, du Nord-Alsace.
Salut Daniel, c'est encore l'association des parents d'élèves de Parisot du Tarn-et-Garonne. Merci d'avoir diffusé notre message hier. Alors que nous étions à la manifestation devant l'inspection d'académie de Montauban, nous avons eu beaucoup de soutien des Montalbanais qui t'écoutent, et évidemment sur notre action en particulier. La délégation des trois associations de parents d'élèves, de Saint-Antonin, de Quélus et de Parisot, avec les élus, elle est ressortie du bureau en nous annonçant la bonne nouvelle que les quatre postes d'enseignants de notre territoire sont maintenus pour un an. Cette victoire prouve au moins une chose, c'est que les suppressions de postes ne se font pas que sur des critères objectifs, mais sur le pouvoir des réactions des personnes concernées. En gros, on a besoin de X postes. On balance l'info en février, dans un nombre suffisant d'écoles, on analyse le pouvoir de résistance et on tranche plus tard. Malheur aux timides. Mais pour nous, la solidarité du territoire est une valeur sûre et pas un vain mot. Alors, il faut bouger. Merci à toi, Daniel, pour notre soutien.
Je salue la délicieuse chronique anticléricale de Daniel Morin qui vient d'avoir lieu au Fou du Roi, à l'instant même, sur France Inter. Ciao.
Ma radio préférée, malgré quelques égarements, m'a menti par omission. Mardi 25 janvier, France Inter relaie l'info selon laquelle les principaux proviseurs qui auraient atteint les objectifs, je traduis, supprimer un maximum de profs comme moi, recevront une prime de mérite pouvant aller jusqu'à 6 000 euros. Mais on oublie de nous dire que certains syndicats de chefs d'établissement ont refusé cet argent de la honte et sont partis en claquant la porte. Daniel, tu nous informes ? Merci.
Salut Daniel. Je voulais te donner un renseignement généreux concernant la prime de résultat pour les chefs d'établissement scolaire. J'attendais que les profs en parlent et l'auditrice hier n'a pas souligné le point qui, à mon avis, est le plus important. Je m'explique. Une étude commandée par de dangereux gauchos avec le couteau entre les dents, je crois qu'il s'appelle la Réserve fédérale américaine, a commandé au MIT. Alors le MIT, pour aller vite, on va dire que c'est l'équivalent du CNRS. Une étude dont le résultat peut tenir en une phrase. Lorsque vous demandez un travail qui nécessite ne serait-ce que des compétences cognitives rudimentaires, la rémunération la plus haute menait aux performances les plus mauvaises. Je répète, lorsque vous demandez un travail qui nécessite ne serait-ce que des compétences cognitives rudimentaires, la rémunération la plus haute menait aux performances les plus mauvaises. Donc les primes ne marchent pas, car soit elles ne sont pas suffisantes et elles ne mobilisent pas l'intéressé, soit elles sont trop hautes et le remède est pire que le mal. On peut retrouver cette conférence en anglais sur TED.com en cherchant Daniel Pink. Bon, maintenant, il faut que les auditeurs se rassurent, car si quelqu'un estime qu'il n'est pas payé à sa juste valeur, il n'aura pas non plus les meilleures performances. Je voudrais juste rajouter un truc. On privilégie dans les universités, dans l'inconscient collectif, les sciences dites dures. Physique, maths, biologie, au détriment des sciences humaines, en les stigmatisant de molles. Alors, pour prendre leur défense, je parlerai de sciences douces, et que ceux qui les dévalorisent devraient commencer à ouvrir leurs yeux et à voir ce qu'elles produisent. Allez, bonne continuation et à demain. Ciao.
Oui, bonjour. Là, je téléphone parce que je suis vraiment mais en colère après cette décision là, à la con là, d'interdire à une nana d'abandonner son enfant. Alors du coup, elle peut pas l'abandonner parce qu'elle a ses parents. Mais alors c'est bien ça. Ça veut dire que ça se trouve, ses parents, elle pouvait pas les encadrer. Alors du coup, voilà. C'est quoi la prochaine étape là? On interdit l'avortement parce qu'il y a les allocations familiales et que l'État vous aide? Putain, bande de réac. Non mais c'est quand même un truc incroyable. La seule conséquence, c'est que du coup, ces pauvres filles vont devoir abandonner leurs enfants dans des boîtes à bébés, dans les hôpitaux, parce qu'elles ne se déclareront plus, elles vont accoucher de façon clandestine. Mais c'est complètement con de faire des décisions pareilles. Ah mais j'ai honte d'être un homme, là, vraiment. Je suis à peu près sûr qu'il y a un mec dans la décision, au moins de cette cour de justice. Putain. Ah, voilà, en colère, hein. Enfin. Bon, bonne continuation. Au revoir.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. Mon intervention n'est pas liée à votre émission d'hier, que j'écoute occasionnellement quand je peux. Je voulais dire que depuis la révolution tunisienne, tous les journalistes de tous les médias dénoncent le silence des gouvernements successifs et partis politiques sur les agissements de Ben Ali. Mais je n'ai jamais entendu ces mêmes journalistes en parler, non plus depuis des décennies que j'écoute, en particulier France Inter de 7h45 à 8h45 tous les jours, puis France Info quand je suis dans la voiture. De ce fait, je viens de découvrir, depuis la révolution tunisienne, la dictature Ben Ali, comme tous mes compatriotes à qui j'en ai parlé. Ces journalistes n'ont pas fait non plus la promotion des livres écrits par certains sur le régime Ben Ali, que je viens également de découvrir. Je pense donc pas que les journalistes soient mieux comportés que les politiques. Je dis. À bientôt.
Et merci pour ces messages, chers auditeurs et auditrices, auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales. En effet, on a en ce moment des responsables politiques, intello médiatiques, qui sont en train de nous vendre le miracle économique tunisien, mais vraiment a posteriori. Ceux qui, il n'y a pas si longtemps, passaient toute leur semaine à cracher sur Cuba, sur le Venezuela, le week-end se retrouvaient dans un agréable palace tunisien avec les compliments de Ben Ali. Il faut quand même rappeler que l'enrichissement de Ben Ali et de sa famille s'est fait au détriment quand même du peuple tunisien. Alors en ce moment, il y a un petit climat dans ce petit monde intello-médiatique, un petit climat d'épuration et de dénonciation. Et si vous avez eu, une histoire avec un Tunisien bénaliste, vous risquez de vous retrouver tendu par un tribunal médiatique, en effet. Et curieusement, les plus intransigeants aujourd'hui sont ceux qu'on a rarement entendus dénoncer quoi que ce soit jusque-là, auparavant, en Tunisie comme ailleurs. Juste un petit rappel concernant là-bas, si j'y suis, en avril 2000, avec Guy Vanctil. Avril 2000, ça fait bientôt 11 ans. Nous avons fait une série de reportages en Tunisie avec un traducteur qui s'appelait Taoufik Ben Brik, qui nous avait d'ailleurs été conseillé par notre ami Florence Aubenas. Donc, vous voyez qu'il y avait même des journalistes qui avaient travaillé là-bas, qui avaient fait un petit tour en Tunisie. Nous avions rapporté des témoignages terrifiants, le quotidien des Tunisiens, les flics partout, le courage des opposants. Tout ça était très bien, mais au retour à l'aéroport, avec Guy, nous avons été arrêtés par les services tunisiens qui nous ont pris nos enregistrements et nos carnets de notes. Donc, il s'agissait d'une atteinte flagrante à la liberté de la presse. Alors, on s'est battu, on s'est démené une fois rentré en France Et hormis quelques échos dans la presse écrite, ça n'a pas été très loin. Aucun soutien, aucun, y compris ici dans notre propre maison, confrères et direction regardaient ailleurs. C'était pas la mode. Et c'était ainsi. Quelques mois plus tard, nous avons recommencé. Nous avons profité d'un voyage de parlementaires européens. C'était en septembre ou octobre 2000. Et là, cette fois, nous avons réussi à confier nos enregistrements à l'ambassade de France à Tunis en demandant à ce que nos documents transitent par la valise diplomatique. Eh bien, ça a été non. Ça a été non, un refus total. On a pu découvrir à ce moment-là, l'étroite connivence entre l'ambassade de France et le régime de Ben Ali. Il a fallu des semaines de ruses, des demandes et des démarches. Et heureusement, il y a eu quelques confrères étrangers un petit peu plus courageux et quelques diplomates un petit peu moins lâches pour que nous puissions récupérer notre matériel et diffuser des émissions. Voilà. Je raconte tout ça sans rancune, mais j'ai eu envie de vous le dire et de le faire entendre aux résistants de la 25e heure qui volent au secours de la victoire. Aujourd'hui, un sujet tout à fait différent, une utopie pirate. Pirate et utopie. Oui, pirate, vous savez très bien ce que c'est. On a tous un pirate dans la mémoire. C'est la piraterie et les pirates occupent dans l'imaginaire une place prépondérante. Il y a une fascination depuis très très longtemps pour la piraterie. Alors il y a la piraterie, il y a les pirates de l'air, les pirates informatiques, mais évidemment c'est les premiers, les figures principales, c'est les pirates des mers. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure sur la piraterie, parce que évidemment il s'agit de bandits, il s'agit de délinquants, il s'agit de brutes et d'assassins, mais il y a aussi une version, une interprétation et des recherches qui tendraient à faire de certains pirates, à certaines époques, eh bien des révoltés, voire même des révolutionnaires qui avaient réussi à certains endroits à créer de véritables îlots de vie socialiste. En tout cas, c'est une discussion. On peut tout à fait imaginer aujourd'hui dans un bar, je sais pas, à Londres, où vous voudrez, deux gars qui prennent un verre. L'un est scénariste chez Disney, et il travaille à une énième version de L'île au trésor, un film destiné au jeune public. Et puis l'autre à côté pourrait être un chercheur, comme Marcus Rediker, qui est un chercheur américain et qui voit dans les pirates des ancêtres du socialisme, des ancêtres de courants libertaires tout à fait édifiants. Tout ça sur les mêmes personnages, sur le même groupe social. Comme Eric Hobsbawm avait vu auparavant chez les bandits de cœur, les bandits sociaux, les primitifs de la révolte. Voilà notre heure que nous allons passer ensemble avec Antoine Chao, Utopie Pirate. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, de retour du Chili ultralibéral. Mission accomplie. Nous avons produit un documentaire d'intervention urgente sur les méfaits sociaux et environnementaux d'une multinationale voyou, pardonnez-moi la redondance, et la résistance inouïe des comuneros. Vous pouvez y aller. Allez sur YouTube et tapez les damnés de l'eau. Je répète, les damnés de l'eau. Resistir es vencer. Résister, c'est vaincre.
Cher AMG, bonsoir, c'est le Café Repère des Coteaux et des Monts du Lyonnais. On vous invite à notre prochain Café Repère qui se déroulera le 28 janvier à 20h30, donc ce vendredi, au bar Les Gourmandines à Saint-Maurice-sur-Dargois. On va avoir le plaisir d'accueillir Dominique. Le thème de la soirée, ce sera la Palestine. Dominique va témoigner sur la Palestine. Elle a fait une mission pour la campagne civile internationale pour la protection de la Palestine. Donc photos, commentaires, échanges. Donc c'est une soirée consacrée à la Palestine. Et on vous attend nombreux pour discuter autour de ce sujet. Je rappelle que c'est reparti, les cafés repères, tous les mois. On va s'organiser et on fera mieux que 2009. On vous attend nombreux, cher MG, à Saint-Maurice, vendredi.
Bonjour, Sophie, médecin du travail en service interentreprise à Grenoble. J'ai la chance et le plaisir de faire un métier très riche, au cœur de la vie au travail des salariés. Aujourd'hui, le Sénat examine un nouveau texte de loi qui réforme l'organisation de la santé au travail. Je suis très inquiète, ainsi que beaucoup de mes collègues, car sous prétexte entre autres de pallier au manque de médecins du travail, manque qui n'a pas été anticipé et qui est lié essentiellement au travail, au départ en retraite massif de toute une génération de médecins du travail, ce nouveau décret va nous éloigner de plus en plus du terrain, du contact avec le travail réel, pour faire de nous, médecins du travail, des chefs de projet. Je me pose la question suivante. Ne serait-ce pas parce que nous sommes gênants et indésirables sur le terrain, en particulier quand nous prenons position pour dénoncer les ravages provoqués par les nouvelles organisations du travail? Voilà, je pense qu'il est important que tous les salariés soient au courant. Je vous remercie.
Bonjour à tous et à chacun. Samedi prochain, à partir de 17h, au bar-restaurant Le Fontenelle de Marly-le-Roi, 30 rue de Fontenelle, derrière la gare SNCF, il y aura une intervention de Monsieur Bernard Blavette, chroniqueur à la Grande Relève sur les paradis fiscaux. Vous êtes les très bienvenus à Marly-le-Roi à partir de 17h samedi prochain. Merci, venez nombreux.
Inquiétude des États-Unis sur l'Égypte, je comprends. Les États-Unis accordent tous les ans 1,3 milliard à ce dernier, à condition que Moubarak accentue l'entraînement de la police et renforce la surveillance des blocages de la contrebande des tunnels à Gaza. 45% de la population est illettrée. Moubarak a une main tendue vers Israël. Je ne suis pas sûre qu'il ait le consentement du peuple. Tous ces dessous, on ne les entend pas beaucoup sur nos antennes. Ce serait bien, Daniel, que vous nous fassiez un spécial là-bas si j'y suis sur l'Égypte. Bon week-end à tous, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet. Avec Antoine Chaos, c'est là-bas si j'y suis. Utopie pirate. Flight number 2. Arriving from. Une tête de mort dans les reflets d'une flaque de sang. 6 et 3 font 9. Voilà le capitaine Flint avec sa jambe de bois sur le gaillard d'avant. 6 et 3 font 9. Et un perroquet et deux pistolets. Et une barbe qui pue le rhum et le hareng. Et à l'oreille, un anneau d'or. J'oublie la pipe, j'oublie la poudre, j'oublie les grosses filles des tavernes aux tétons si blancs et le coffre du mort, avec l'or et les diamants. Et la vieille montre espagnole qu'on enterre la nuit sous les cactus de l'île de la Tortue. Et tout ça... pour ça? Non, pas vraiment. Le trésor, on le retrouve jamais, car on est mort avant. On fera pas de vieux os sur terre, et encore moins sur mer. Et c'est tant mieux, Comme dit la chanson, mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Voilà, le pirate qui arrive. 6 et 3 font 9. 6 et 3 font 9. Ces hommes, depuis longtemps, éternels, révoltés, aventuriers sans scrupules, gueux, assoiffés de richesses, ou précurseurs audacieux de sociétés égalitaires, ces pirates ont traversé les siècles sans cesser de fasciner et d'inspirer, bien sûr, d'inspirer d'abord les enfants et les anciens enfants. Les pirates nous replongent dans nos rêves adolescents de révolte et de rupture. Quand vous mordez la nuit, la main qui vous nourrit et partez à l'aventure sous les couvertures sans avoir oublié d'écrire avant dans votre petit journal « L'ordre, c'est la vertu des médiocres ». C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Utopie pirate.
Alors nous voilà en face du Musée National de la Marine à Paris, place du Trocadéro. 300 ans d'histoire maritime. Alors la question, c'est celle du bon usage du sabre d'abordage. De vérifier donc la thèse d'un livre qui est sorti il y a quelque temps déjà aux éditions Aden et qui s'appelle « Bastion pirate, une histoire libertaire de la piraterie ». Qui présente les pirates comme des équipages composés des premiers rebelles prolétariens, s'opposant au mercantilisme de la marine de l'époque, qui ne faisait que participer au pillage du nouveau continent, découvert un siècle plus tôt, en proposant la répartition des richesses, en quelque sorte, dans cette période du premier essor du capitalisme.
Voilà, bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Je prépare un travail sur la piraterie, donc je voulais savoir si j'allais trouver de l'information ici. Il n'y a rien du tout sur les pirates ? Il n'y a aucune documentation
non,
sur la piraterie ?
Il y a eu une expo sur les pirates, mais il n'y a rien sur les pirates. Non.
D'accord.
Allez à l'information, on va vous dire en fait.
Merci. Bonjour. Alors, sur les pirates, vous auriez quoi ?
Il faut que je regarde les spécifiques.
Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de salle qui était dédiée à...
Non, non, non.
Est-ce que vous auriez ce livre, la Bastion pirate ?
C'est quelle édition, ça ?
Aden. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre, là, une histoire libertaire de la piraterie. Vous pensez que les pirates étaient des libertaires ou c'était des brigands uniquement ?
Les libertaires, ils étaient quand même assez indépendants, c'est sûr. Plus que les corsaires, c'est sûr. Les corsaires étaient totalement dépendants, mais les pirates étaient indépendants.
D'accord.
Donc, mais non, celui-ci, on l'a pas.
D'accord.
Est-ce qu'ils avaient une tendance libertaire ? Peut-être pour certains, probablement. Notre position à la base, c'est de dire une chose très simple. Ici, on a toujours dépendu de l'administration royale, puis nationale, puis tout ce que vous voulez. Les pirates, c'est un petit peu quelque chose d'extérieur. Enfin, vous voyez, les pirates, c'est pas du tout... voilà. Donc, Ici, on a des sources sur la marine française, sur les corsaires, parce qu'eux avaient des lettres de marque. Donc, ils faisaient partie du système. Les pirates, c'est hors système.
Eh oui, on a cru bien faire avec Antoine. On dit, bon tiens, c'est intéressant. Et les pirates, quand même, formidable. Hein, une histoire, tout le monde sait qui sont les pirates. Les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde. On a tous un pirate dans la tête. Bon, ben, pour faire une émission là-dessus, pour en savoir un peu plus, ben, allons au musée de la marine, le magnifique musée de la marine. Oui, mais le musée de la marine dépend du ministère de la Défense. Et le ministère de la Défense, c'est se défendre justement contre les pirates. Même s'il n'y a plus beaucoup de pirates des mers dans nos eaux à nous. La différence est toujours marquée. Et ce sont bel et bien, aux yeux de... officiel, eh bien, bel et bien des brigands, et les valeurs libertaires. Non, c'est pas par ici qu'on va apprendre grand-chose. Quoique, essayons.
Deux jours plus tard, musée de la marine, porte de service, j'ai rendez-vous avec la conservatrice adjointe qui a été commissaire de l'exposition sur les pirates. Des histoires qui font l'histoire. Savez-vous comment l'obélisque de Louxor est arrivé place de la Concorde? Comment fabriquait-on un cordage ou installait-on un mât au XVIIIe siècle? Savez-vous que le bateau à vapeur et l'hélice sont des inventions françaises? Combien d'hommes travaillent sur le porte-avions Charles de Gaulle? Les réponses, venez les découvrir à travers plus de 1000 objets extraordinaires, maquettes de navires et de machines, souvenirs de marins, peintures, figures de proue, armes, instruments de navigation. Tous ces objets de collection ont une histoire.
Bonjour.
J'étais en train de regarder le programme, alors je vois que vous répondez à plein de questions.
C'est parfait.
Hein, donc voilà, donc je vais vous poser la mienne. Ah non, justement, là je vois qu'il n'y a pas la question qu'on se pose. Sur... le bon usage du sabre d'abordage, quoi.
Dites cuillère à peau.
Eh
ben oui, ça vient de là.
Le coup de cuillère à peau, c'est un terme qui vient de la marine, puisque la cuillère à peau en question, c'était le nom qu'on donnait au sabre d'abordage. Donc lorsqu'un abordage se faisait en deux coups de cuillère à peau, c'était en deux coups de sabre, donc extrêmement rapidement, et qu'il était mené à bien évidemment.
L'abordage fait partie de l'histoire de la marine.
Marine militaire, oui, bien sûr, et puis la piraterie, bien sûr, aussi.
D'accord, mais pourtant, il n'y a aucune salle qui est destinée à la piraterie dans ce musée.
Alors, on avait fait une grosse exposition sur le sujet il y a une huitaine d'années maintenant, parce que justement, ça n'était pas un sujet qui était abordé dans nos collections. La présentation permanente des œuvres était plutôt basée sur des choses, je dirais, plus politiquement correctes. Donc, en particulier, l'évolution de la marine militaire, l'évolution de la marine marchande, voilà, des choses un petit peu plus nettes. Avec des contours un petit peu plus précis que sont ceux de la piraterie.
D'accord.
C'est ces aspects-là qu'on a cherché à développer. Le musée de la marine, on dépend du ministère de la Défense. Il y a des explications à la présentation peut-être d'un certain nombre de choses et la façon dont c'est présenté ici.
Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leurs comptes sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pucelles pour rénover le cheptel, payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leur bottent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qui ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça?
Donc, je suis Annie Madévache, je suis conservateur adjoint au Musée national de la Marine, l'un des commissaires de l'exposition pirate qui s'était tenue au musée en 2002.
Alors, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit lexique sur ce qu'étaient les corsaires et ce qu'étaient les pirates ?
Alors, les corsaires...
Les flibustiers.
Ah oui, oui, parce qu'il y a tout un... Il y a les boucaniers, il y a les flibustiers, il y a les pirates, les corsaires, et tout ça, ce sont des personnes qui ont des facettes différentes les unes des autres. Les corsaires, ce sont, je dirais, les plus droits, peut-être. Ce sont ceux qui ont, en tous les cas, une autorisation de la part du roi de s'attaquer, pendant une période donnée, à une nation particulière. Ils ont en leur possession ce qu'on appelle une lettre de marque, délivrée par l'État. Cette lettre de marque stipule précisément quelle est la nation qu'on a le droit d'attaquer et pendant un conflit, quel qu'il soit. Les pirates sont des gens sans foi ni loi qui ne font vraiment que ce qui leur plaît et qui n'ont de compte à rendre à personne. La piraterie, c'est un phénomène qui a existé de tout temps, qui malheureusement existe encore. Tandis que ce qu'on appelle vraiment les flibustiers, c'est un terme qui s'applique géographiquement et chronologiquement à un espace bien précis, c'est-à-dire, encore une fois, la zone de la mer des Antilles, vraiment courant 17e et jusqu'au milieu du 18e siècle. L'essentiel des équipages qui formaient les équipages pirates provenaient des marins en rupture de banc avec la marine britannique, et beaucoup pour la marine britannique, française un petit peu dans une moindre part, mais les conditions de vie à bord des navires de guerre britanniques étaient tellement dures que bien souvent ils préféraient essayer de s'en abstraire et donc de rejoindre les pirates et les forbans. Et les boucaniers, c'était le terme vient du boucan, le boucan étant le foyer sur lequel on faisait revenir boucaner la viande. Et donc par extension, les gens qui effectuaient ce type de tâches étaient les boucaniers. Donc c'était plutôt le versant terrestre que le versant maritime des personnes qui vivaient à cette époque-là dans les îles.
Nous sommes des humains sans patrie. Des hors-la-loi dans notre pays et des indésirables partout ailleurs. De désespoir, il nous faut tenter notre fortune en mer. Nous nous unissons donc fraternellement pour devenir ensemble des flibustiers et accomplir des actes de piraterie en haute mer. Étant pourchassés, nous pourchasserons.
Libertalia, en fait, c'est une terre qui est soi-disant créée par des pirates au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le récit vient d'un certain capitaine Johnson, dont l'identité a été révélée il y a assez peu de temps par les universitaires. Ça n'est autre que Monsieur Defoe, qui est à l'origine de Robinson Crusoe. En fait, il raconte une histoire qui s'avère être une sorte de conte politique et que, très certainement, pour des raisons liées à la peu de liberté de presse qu'il y avait à l'époque, il va situer dans un cadre pirate et dans l'océan Indien, donc, puisque ça se situerait donc à Madagascar, au nord de Madagascar. Malheureusement pour nous, je dirais aujourd'hui, il s'avère que c'est une utopie, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit de fiction totale, ce qu'aurait pu être une vie... un petit peu rêvé de pirates qui décident d'instaurer un gouvernement de type républicain. C'est assez précurseur. Le bouquin est paru en 1724. Donc c'est très, très tôt par rapport à justement toutes ces utopies politiques.
Alors vous dites que c'est avéré que c'est une fiction ?
Oui, parce que justement, en fait, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur place. Rien n'a été trouvé sur place pour montrer qu'il y ait eu, à un moment ou à un autre, une communauté qui se soit installée là. La tradition orale locale n'a absolument gardé aucune trace non plus de la présence potentielle d'un groupe qui se serait installé dans cette zone-là. Donc vraiment, a priori, c'est purement un conte politique qui est sorti de l'esprit de ce Britannique du XVIIIe.
Donc le mythe libertaire des pirates s'effondre, là, aujourd'hui, au musée de la marine.
Je suis navrée.
Vous m'aviez laissé espérer, il y a deux jours, que c'était une réalité, que ça avait été une réalité.
Non, non, malheureusement, j'ai revu ma copie entre-temps, et non, ça n'est pas le cas.
Mais ça se base quand même sur des pratiques. Est-ce qu'il y avait des pratiques comme ça de fraternité ou de coopération au sein des confréries pirates? Ça a existé ou pas? Ou ça fait partie aussi de la légende?
Alors, il y a des éléments malgré tout.
Partage du butin, etc.
Alors justement, il y a des règles qui sont établies, dont on a parfois la trace d'ailleurs dans des récits. On a quand même déjà une forme de répartition des richesses qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans la société classique terrestre de la même époque. De même qu'un certain nombre de règles ont été établies pour dédommager, si on perd une main, si on perd un bras, si on perd une jambe, si on perd les deux jambes, pour être dédommagé. C'est l'enceinte de notre sécurité sociale, hein. C'est clairement établi comme ça. En fonction de du problème physique rencontré, on est dédommagé sur une part de butin des autres.
Le vent l'encre noir, les femmes et les enfants debout.
Larguez les amarres.
Marin des mers du Nord, j'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit, contre l'ordre établi, relevons la tête.
Encore un refrain pour afficher nos couleurs. Encore une douille pour défier nos censeurs. Encore un pavé dans la tronche de l'oppresseur. Encore une graine pour défendre nos valeurs. Qui a cru qu'on était tous anesthésiés, qui pensaient qu'on avait tous démissionné, que Babylone nous avait ensorcelés, qu'il suffisait désormais de nous dire quoi penser. À la portage pour foutre un bordel, à la portage pour mettre en crème sel, à la portage pour foutre un débord, à la portage pour péter le décor. En politique, les penseurs de leur mère va leur dire que le MAP est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudés, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers, on a la foi et de la rage dans les viscères.
Écumons les scènes, voguons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux, d'immondes. Sous l'œil de la lune rousse de toutes parts, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Pompe les bon oeil, on part à l'abordage.
Oui.
Eugène ?
Oui.
C'est Antoine.
Ah, Antoine.
Tu vas bien ?
On a ramate, comme on dit ici. Ça veut dire ça va bien.
Ouais, écoute, ça va bien, sauf que j'ai une très mauvaise nouvelle.
Ah bon ?
On me soutient que l'aventure, la belle aventure de Libertalia n'a pas eu lieu.
Non, non, moi je crois que ça a eu lieu, ouais. Ouais, ouais. Je crois que ça a eu lieu, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des détracteurs. Et celui qui soutient ça te semble crédible, c'est quoi ?
C'est le musée de la Marine, qui dépend de la Défense Nationale.
Ah, bah évidemment, tu penses bien que les libertaires, ça les intéresse pas du tout.
Ah ouais, tu crois que c'est ça ?
Oh bah, bien sûr, parce que c'est quand même... Il y a les noms, il y a le nom du jésuite qui était avec lui, il y a le nom du mec, il y a... c'est très connu, le nom de ces bateaux, les prises qu'ils ont réalisées, ces gens-là. Enfin, bon, ou alors, on s'est tous fait berner, quoi. Hein. Mais moi, je crois pas, quand même, hein. Je crois pas, hein. Je crois que c'est une belle histoire, quoi.
Ça t'étonne pas, toi, que ce soit comme ça...
Ah, mais moi, ça m'étonne pas du tout,
parce que... Une option possible pour les hommes de la mer, quoi.
Voilà, parce que c'est dans la mentalité des marins. Les marins, ils sont quand même des gens libres et un peu égalitaires quand même. Tu vois, c'est quand même une population un peu particulière, quoi. Bon, Antoine, en tous les cas, rassure-toi du point de vue de l'existence, parce que Lucien Gouron, lui, il a réussi, mais il y a un document dont il m'a parlé l'autre jour, mais c'est incroyable parce qu'il m'a parlé de ça, ou c'est moi qui l'ai branché là-dessus. Et il est vraiment très documenté, quoi.
Ah, je l'appelle de ce pas, alors.
Ouais.
Super.
Et tu lui dis salut de ma part.
Très bien.
Kenavo.
À bientôt, Eugène. Kenavo.
Avant de prendre le large, nous allons remercier les Espagnols. Tenez-vous prêts, les enfants. Le moment est venu de leur adresser notre message d'adieu. Attends. À tes canons.
Oui, patron.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Dégagez le pont pour la manœuvre.
Oui.
Oui, Lucien Gouron.
Oui.
Je vous appelle de la part d'Eugène Riguidel, qui m'a conseillé de vous appeler parce que vous vous intéressez aussi à l'aventure des pirates dans l'océan Indien, notamment à Libertalia. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ?
C'est par le plus grand des hasards, dans la passion que j'ai pour les histoires autour de la Bretagne et des marins, j'avais découvert l'histoire d'un pirate qui s'appelait Condon, ou Condon, écrit d'une autre façon, qui avait vécu à Port-Louis.
et qui était marié avec quelqu'un qui était un collatéral d'un de mes ascendants dans le pays de Port-Louis et d'Île de Groix. Donc je suis parti à la recherche de cet homme dans l'océan Indien. Je suis arrivé aux Seychelles et j'ai été aux archives où j'ai rencontré deux personnes qui collectaient les contes aux îles Seychelles. Et là, tout de suite, ils m'ont fait découvrir plein d'histoires de contes et de légendes autour de trésors de pirates extraordinaires. Le fameux trésor de la Buse. Or, en m'intéressant à l'histoire de la Buse, Olivier Levasseur, qui avait été aussi pirate dans les Caraïbes, eh ben, je suis tombé sur l'affaire de Libertalia, c'est-à-dire cette république socialiste, alors utopique, dont on ne sait pas si elle a vraiment existé ou elle est seulement l'œuvre enflammé de Daniel Defoe, puisqu'il écrit une histoire de la piraterie, mais qui est passionnante parce qu'il symbolisait, enfin, pour moi, tous des rêves qu'on peut avoir étant enfant à l'île de Groix, par exemple, où toute mon enfance à l'île de Groix a été bercée par des histoires de pirates, quoi. J'ai découvert aux archives des Seychelles le fameux cryptogramme lancé donc par ce fameux Labuse, c'était son surnom, dit Olivier Levasseur, qui, lorsqu'il a été exécuté à l'île Bourbon, devenue aujourd'hui l'île de la Réunion, il lance ce parchemin et il dit « Mon trésor aura, à qui découvrira ?» quoi. Et depuis, on cherche toujours à essayer de décrypter ça, parce que on pense que ce trésor, qui avait sans doute séjourné à Madagascar, à Libertalia, avec Misson, avec tous ces pirates anglo-saxons, français et bretons. On dit même qu'il y avait un breton qui s'appelait, enfin, Jean-Thomas Dulaya, un Nantais qui aurait appartenu très jeune à l'équipe de ces gens, quoi, là. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire, j'étais persuadé que ça avait vraiment existé. Et en même temps aussi, ça satisfaisait chez moi ce besoin, effectivement, de renouer avec ce côté anarchiste que j'avais quand j'avais 18-20 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand on me dit c'est une fable, je préfère ne pas le croire, quoi. Dans mon esprit, pour moi, ça existait, quoi. Libertalia, c'est pas seulement qu'une utopie.
Parce qu'au-delà de Libertalia, des historiens se sont penchés sur l'histoire de la piraterie, hein, notamment Marcus Rediker, aux États-Unis, oui. Un chercheur, et il s'avère effectivement qu'il faut un peu réévaluer l'histoire de la piraterie avec un focus plus social et plus libertaire, effectivement aussi.
On ne bâtit pas une utopie, à mon avis, comme celle-là, sans qu'il y ait effectivement dessous un terreau propice, j'entends, le mouvement de la piraterie en général, quoi. Moi, j'en suis persuadé, oui.
D'accord. Merci, Lucien. À bientôt.
Avez-vous envie de servir le roi?
Vous entendez ça, les gars? Le roi voudrait qu'on fasse partie de sa flotte.
Attachez-le à la gueule d'un canon, j'enverrai ses tripes engraisser les champs de canne à sucre.
Vous perdez votre temps.
Prenez-le.
Attendez. Le pendre, ça serait trop noble pour lui. Vous nagez, colonel chéri? On va vous rafraîchir les idées en vous envoyant prendre un bain froid. Allez, Oust, par-dessus bord!
Alors, utopie ou vérité ou véritable utopie, l'histoire de Libertalia. Mais comme dit Antoine Chao et nos amis, il n'y a pas que cette histoire de Libertalia. Il y a la façon dont vivent ces pirates. On parle quand même essentiellement de l'âge d'or, hein, de la piraterie, cette piraterie de Stevenson, de Daniel Defoe, c'est-à-dire le début du 18e. Il y a une chose, hein, l'image, le marin est un homme libre, évidemment, il est là tout seul au milieu des horizons, sauf qu'il est dans un bateau. Il est dans un bateau, il n'y a rien de plus enfermant qu'un bateau. On est prisonnier dans un bateau. Et quand on est des pirates, eh ben, on est tous prisonniers du bateau à l'intérieur. Il va falloir s'organiser, il va falloir organiser la vie. Et comment on va l'organiser, la vie? Eh bien, c'est tendu, les hommes sont là, c'est pas des enfants de cœur, ces enfants-là, ces marins-là. Donc, il va falloir trouver des relations, qui va être le chef, qui va commander. Et il y a des impératifs de discipline très stricts à bord d'un bateau. Donc, il y a communauté. Donc, c'est peut-être à partir de là qu'on peut imaginer qu'il y a eu, une fois à terre, une fois le butin acquis, comment va-t-on le partager très souvent, ce sont des butins acquis sur des gens qui eux-mêmes sont des voleurs, hein, ont piqué ça aux Amérindiens dans des conditions épouvantables. Donc, c'est des pirates qui volent d'autres pirates, en fait. Mais est-ce qu'il y a eu ou non la utopie ? Est-ce qu'il y a eu là des bandits sociaux ? Est-ce qu'il y a eu utopie ? Est-ce qu'il y a eu là les premiers rebelles prolétariens qui sont apparus. On retrouve les éditeurs du livre de Marcus Rediker, Pirates de tous les pays. Marcus Rediker, on vient de le dire, étant un chercheur américain qui passe sa vie sur ces histoires de pirates et leur histoire comme oui, c'est ça, ancêtre, on peut dire, des rébellions socialistes.
Nicolas Norito. Je m'occupe des éditions Libertalia depuis quelques années. Je suis militant anarcho-syndicaliste. Également prof à Romainville dans un lycée professionnel. Alors Marcus Rediker, c'est un historien américain qui a 55 ans à peu près, qui a été le disciple de Christopher Hill, grand historien marxiste britannique, qui est le premier à s'être intéressé réellement aux pirates en tant qu'homme d'en bas et non pas comme bandit. D'abord, Rediker s'intéresse à ce qu'il appelle l'histoire d'en bas. Donc l'histoire, elle est faite non pas par les puissants, mais par le peuple. C'est une remise en question absolue de la façon d'aborder les phénomènes historiques. C'est donc une révolution, ce qui s'inscrit dans la fameuse nouvelle histoire. Donc Rediker, élève de Christopher Hill, se dit « faut que je m'intéresse à cette question ». Et il va passer 30 ans de sa vie, ça fait 30 ans qu'il travaille sur le monde de la mer. Et il va démontrer l'aspect absolument subversif des pirates, qui sont les meilleurs des marins, qui ont décidé de s'émanciper, de refuser le jeu capitaliste, économie mondialisée, pour vivre leur vie, tout en libérant leurs frères humains, à savoir les esclaves qui étaient emmenés de l'Afrique pour participer à la construction d'économies capitalistes et productivistes.
Sure, you've come to the proper place.
Vous êtes la conscience du mal, vaurien. Soyez maudits. Moi, capitaine Bellamy, je suis un prince libre, mais j'ai autant d'autorité pour faire la guerre au monde entier que celui qui a une flotte de 100 navires sur mer, une armée de 100 000 hommes sur terre. Voilà ce que me dit ma conscience. Mais que l'on ne peut discuter avec des morveux pleurnicheurs qui permettent à des supérieurs de leur botter le train à volonté d'un bout à l'autre du pont.
Le marin, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attirance romantique pour le monde de la mer ? Non, absolument pas. Ce que nous ont décrit Melville ou Stevenson dans leur roman, c'est de la littérature. Lui, Rediker, va s'intéresser à l'homme, le paysan qui est obligé de quitter ses terres puisqu'il y a une politique de remembrement en Angleterre à la fin du XVIIe siècle et qui est obligé de prendre la mer, qui va travailler dans des conditions terribles pour un salaire de misère. Donc, il s'intéresse aux marins. Combien y avait-il de marins au XVIIe siècle ? En quoi ont-ils participé à la grandeur de l'empire colonial britannique et donc à la naissance du capitalisme ? Et quelles ont été leurs formes de résistance ? Donc voilà, on a quelque chose comme 80 équipages pirates qui constituent au total plusieurs milliers d'hommes qui vont arraisonner 400 navires marchands appartenant aux Français, aux Espagnols, aux Britanniques. Et pas n'importe quel navire, les navires qui revenaient de l'Eldorado, de l'Amérique du Sud, des navires chargés d'or ou de sucre.
Pour en revenir à Libertalia, que dit Marcus Rediker sur l'existence ou pas de Libertalia ?
Libertalia, c'est supposé être une république égalitaire et libertaire pirate située au large de Madagascar à la fin du XVIIe siècle. Bon, on n'a pas retrouvé la moindre trace de ça. Donc là, on est dans le roman, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un Daniel Defoe, auteur de ces chapitres-là.
Fred Alpi, vous êtes le traducteur des deux bouquins.
Effectivement, Libertalia, dans l'imaginaire libertaire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles, même utopiques, et d'essayer de voir comment un fonctionnement collectif peut tendre vers ces modèles. Alors que Libertalia, finalement, existait ou pas, l'idée d'une communauté de vie égalitaire, libertaire, des fonctionnements non hiérarchiques, pas de différence de salaire ou très peu entre l'équipage et le capitaine, un capitaine élu, révocable à tout instant, mandaté, les décisions prises par des assemblées générales souveraines. Voilà, c'est ça qui est important. Chez les pirates, par exemple, il y a eu les premières formes de sécurité sociale. hein, alors que bon, les marins blessés ou handicapés, amputés dans la marine marchande où ils étaient abandonnés à leur sort, les pirates, eux, constituaient des caisses de sécurité sociale avec des indemnités en fonction des blessures pour permettre une réelle solidarité. La nourriture était partagée équitablement. Enfin, c'était un vrai fonctionnement. Enfin, il n'y avait pas un fonctionnement uniforme. Mais en tout cas, il y avait toutes ces choses-là ont existé et finalement ont été les premières formes d'organisation libertaire concrète. Il faut savoir que le terme « strike », « grève » en anglais, vient du fait de déchirer les voiles, de fendre les voiles des bateaux pour les empêcher de naviguer. Et c'était les premières formes de grève et d'action directe destinées à immobiliser le bateau, qui est pratiquement la première forme d'usine, avec des gens qui viennent, qui n'ont que leur force de travail à apporter là, qui est un lieu de conflit social permanent.
Et récupération des moyens de production, quoi.
Et récupération des moyens de production, tout simplement, lutte des classes sur le bateau ou contre les armateurs. C'est-à-dire que bon, le pirate, c'est un stade ultime d'une rébellion. Mais déjà, le marin révolté, c'est lui qui va pratiquement être à la base de la naissance des premiers mouvements ouvriers.
Oui, allô?
Allô, bonsoir. Je voulais parler à Michel, s'il est là. C'est Antoine Chao de l'émission Là-bas, si j'y suis.
Là-bas, si j'y suis, c'est sympa. Sauf que vous êtes chez Monsieur et Madame Guguin, en Bretagne.
Ah, je me trompe alors. On cherchait un chanteur breton qui s'appelle Michel Tonnerre, qui s'y connaît
Michel
beaucoup.
Tonnerre, ouais, tu connais raison, Michel Tonnerre, le chanteur breton, ouais. Non, c'est une émission de radio en fait qui cherche Michel Tonnerre, mais sauf qu'on est chez Guguin.
Bah ouais, bon, bah je suis désolé, je vais retaper.
Non, mais soyez pas désolé. Mais c'est pas mon voisin non plus. Non, j'aurais pu aller le chercher.
Alors,
mais
j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les pirates avaient comme ça une geste libertaire?
Une geste libertaire, oui. Les pirates. Non, ben voilà, simple. Je vous réponds très simplement. Les pirates, c'est sympa dans les films, mais les vraies histoires de pirates, c'était quand même pas décent. Et donc, c'était pas des gars bien. Et la preuve, aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'en inspirent pour piller des bateaux, kidnapper des gens et demander des rançons. Donc, si on va par là, les pirates, c'est pas des gens gentils.
Est-ce qu'ils se rebellaient contre une société
Je suis pas sûre. Ils se rebellaient pour eux, pour avoir de la thune, mais certainement pas contre une société, je crois pas. Certainement pas à cette époque-là.
Bon, bah, je vous remercie. Hein, voilà.
Bah, de rien. Bonne émission.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Alerte, un navire à tribord.
Je m'appelle Samuel Sanchez, je suis historien à l'université Paris 7 Diderot. Et je travaille sur les sociétés de l'océan Indien occidental en particulier, à l'époque moderne et contemporaine.
Alors la question se pose de savoir si Libertalia a existé, vraiment. Ouais, donc il y a pu y avoir comme ça une geste libertaire chez les pirates à cette époque-là?
Oui, alors il faut distinguer plusieurs choses. D'une part, dans le comportement général de nombreux pirates, on a un désir de revanche un peu sociale, de s'affranchir des règles très dures de la marine de cette époque-là. Et on a des textes qui attestent un petit peu de ça dans des prises de bateaux, une sorte de dispute entre le capitaine du navire marchand et le capitaine pirate, qui s'appelle le capitaine Bellamy. Voilà, alors Defoe, tome 2.
Ça, c'est le fameux Daniel Defoe.
Voilà.
Histoire générale des plus fameux pirates, avec un Y.
Voilà. Pirates. Ça fait plus authentique.
Soyez maudits! Vous n'êtes qu'un sournois godeluro, un lâche, de même que tous ceux qui s'abaissent à être gouvernés par les lois que les riches ont rédigées, pour leur propre sécurité, car ces couards n'ont aucun courage, sinon celui de défendre ce qu'ils ont obtenu par leur piloterie. Mais soyez maudits, et que soit maudite cette bande de vauriens rusés, et vous aussi qui les servez, n'êtes qu'un ramassis de stupides poules mouillées. Ah, ils nous calomnient, les fripouilles, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent le pauvre sous couvert de la loi, en vérité, et nous pillons le riche sous la protection de notre seul courage. Ne feriez-vous pas mieux de devenir l'un des nôtres, plutôt que de lécher le cul de ces vilains pour avoir un travail?
Voilà le genre d'expression qui, pour moi, manifeste un certain goût de la liberté et un refus de l'autorité telle qu'elle s'exprimait dans la marine de l'époque, en fait. Et par ailleurs, on a une expérience assez unique qui est connu sous le nom de Libertalia, en fait, une expérience dont on n'est pas tout à fait sûr, mais qui aurait eu lieu dans le nord de Madagascar, donc à la fin du XVIIe siècle, fondée par deux pirates, un gentilhomme provençal et un moine dominicain napolitain, donc Misson et Caraccioli, qui étaient deux capitaines pirates qui auraient fondé cette petite république, une société sans esclavage, une société égalitaire qui essayait d'entretenir des relations cordiales avec les voisins malgaches. Et donc voilà, on a cette expérience-là qui est mise en avant, disons, comme une expérience libertaire véritable. Et si elle a vraiment existé, c'est probable qu'elle ait existé. Et sans doute, dans ce cas, c'est vraiment une expérience républicaine avec des fondements ancrés dans une idéologie un peu des Lumières, en quelque sorte. On n'a pas d'archives véritables là-dessus, et la seule source dont on dispose, c'est celle de Defoe, enfin de Defoe du capitaine Johnson. Alors peut-être qu'un jour, on retrouvera des documents qui pourront attester véritablement de l'existence de ce lieu. Après, l'objet lui-même, il existe en tant qu'élément de la mémoire maritime, de la mémoire libertaire aussi, qui s'empare de cet objet historique, pourrait-on dire, pour créer une mythologie, en quelque sorte. Donc là, on ne se situe plus dans l'histoire, mais dans une mémoire des mouvements de libération, en quelque sorte. Mais qui est, à mon avis, distincte de la majorité de la piraterie. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Basile Beaucaire, Koyen Guyenne et Franck Aderer ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire, assistée d'Agnès Lebot. Marina Touillez attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis on vient d'apprendre que le groupe Radio France a été condamné par le Conseil des Prud'hommes de Paris pour le licenciement de l'humoriste Stéphane Guillon sans cause réelle ni sérieuse selon le Conseil des Prud'hommes. Radio France doit payer une somme, doit verser à Stéphane Guillon une somme de 212 000 euros de dommages et intérêts. Réclame.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Eh ben regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman.
Au Futuroscope, découvrez Arthur l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
À lundi 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Scène de guérilla urbaine en Égypte, au Caire, il y a des dizaines de milliers de manifestants que la police tente de contenir à coups de grenades lacrymogènes, canons à eau et balles en caoutchouc. Les protestataires répliquent avec des jets de pierre. À Suez, des véhicules de la police ont été incendiés. Un manifestant a été tué, ce qui porte à 8 le nombre de morts depuis le début du mouvement de protestation il y a 4 jours. Le prix Nobel de la paix, Mohamed El Baradei, principal opposant égyptien qui a participé aux manifestations, est assigné à résidence. La police l'empêche de sortir de chez lui. Un parti d'opposition tunisien, le Parti démocratique progressiste, exprime sa solidarité avec le peuple égyptien en appelant à la fin de l'injustice et de la dictature. Ce qui est dans toutes les têtes, c'est bien sûr l'exemple tunisien. Les manifestations sont d'une ampleur sans précédent, du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir d'Hosni Moubarak il y a 30 ans. Hosni Moubarak qui n'est toujours pas sorti de son silence. Un député égyptien, également membre du Parti national démocrate au pouvoir, appelle le président à des réformes sans précédent pour éviter une révolution en Égypte. Enfin, 4 journalistes français qui avaient été interpellés ont été libérés après une heure de discussion avec la police. Et puis, Internet est toujours inaccessible dans tout le pays. Nelson Mandela va bien. L'ancien président sud-africain et symbole de la lutte contre l'apartheid est sorti de la clinique de Johannesburg où il était hospitalisé depuis 2 jours. Le silence autour de l'état de santé de l'ancien président avait alimenté les pires pires inquiétudes. Âgé de 92 ans, il souffre d'une infection respiratoire aiguë et va être soigné à domicile. En France, après la décision du Conseil constitutionnel de ne pas remettre en cause l'interdiction du mariage homosexuel et d'en renvoyer la responsabilité au législateur, les deux femmes à l'origine de la procédure ne cachent pas leur amertume. Corinne Sestino et Sophie Haslauer vivent ensemble depuis 14 ans et élèvent 4 enfants. Sur France 2, Corinne Sestino a estimé qu'il est écrit quasiment noir sur blanc que le législateur peut décider que nous n'avons pas les mêmes droits que les autres. Elle dénonce une homophobie presque normalisée, légalisée, constitutionnalisée. Les deux femmes annoncent qu'elles vont continuer leur combat. 10 jours après la disparition de Laetitia près de Pornic en Loire-Atlantique, les responsables de l'enquête sont toujours déterminés à retrouver le corps de la jeune fille. Malgré l'obstruction du suspect numéro 1, les juges d'instruction de Nantes chargés de l'affaire se sont rendus sur les lieux de la disparition de Laetitia. Tony Meillon, écroué et mis en examen pour enlèvement suivi de mort, reste muré dans le silence et les dénégations selon les propos du procureur de la République. Le garçon de 11 ans, mort par pendaison mercredi dans le Jura, ne se serait pas suicidé. Il aurait été victime du jeu du foulard. C'est en tout cas ce qu'affirme le beau-père du garçon. Et puis l'adolescente de 14 ans qui a tenté hier de mettre fin à ses jours dans son collège en Seine-Saint-Denis est dans un état stable. Elle souffre de multiples fractures et d'un traumatisme crânien après avoir sauté du 4e étage. Mais sa vie n'est pas en danger. Et puis c'est fait, le gouvernement espagnol approuve le recul de l'âge légal de la retraite à 67 ans. Il était auparavant de 65 ans. Cette réforme était réclamée par les marchés et les grandes institutions économiques.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec Le Monde des Livres. Jean-Marc Parisis pour son roman Les Aimants chez Stock.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre et qui est lié donc à cette époque, c'est à quel point on avait du temps, à quel point chaque chose était un luxe dont on pouvait jouir, qu'on pouvait déguster.
Et Cécile Gilbert pour Sans entrave et sans temps mort, publié par Gallimard.
Cécile l'a très bien dit, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on traverse le temps. Nous sommes à la fois des gens d'hier,
les liaisons heureuses,
et des gens d'aujourd'hui.
Demain. À partir de 15h, France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent à partir du 27 janvier la 8e édition du festival Le Standard Idéal. En ouverture, un solo fulgurant de Samuel Finzi dans le journal d'info de Gogol. Fêteur, une mise en scène de Alvis Hermanis. Ceci est mon père signe le retour d'Hélène Bauer et de son exploration autobiographique au théâtral. Retrouvez-les dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et son carrefour du même nom. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, deux sujets, la folle journée de la région nantaise et angevine, les pays de la Loire. Et ça va plus loin d'ailleurs, jusque dans la Sarthe, la Mayenne avec Laval, je reviendrai sur le détail. L'Île-Dieu, en allant vraiment en mer, et c'est bien sympathique d'ailleurs l'Île-Dieu, c'est sauvage encore, et c'est formidable. Et puis autre sujet, nous allons feuilleter Diapason, notre partenaire bien sûr, où on affiche aussi d'ailleurs la folle journée, et la folle journée consacrée aux titans de Brahms. À Strauss, en passant par plein de compositeurs divers, bien sûr. Un disque récent nous est proposé par le quatuor Modigliani, qui fait partie justement de cette grande famille de la folle journée. Ils seront là et ils nous proposent un enregistrement Brahms avec notamment le fameux quintet pour piano et cordes. Le pianiste, c'est Jean-Frédéric Neuburger. Voici un peu du scherzo. Thank you.
Thank you.